Nous faisons une première lecture ici, Matthieu chapitre 6. Pardon. Matthieu chapitre 6 à partir du verset 25. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet de vêtements? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four ou au feu, ne vous vêtera-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Je vous invite à faire une deuxième lecture dans l'évangile de Marc, au chapitre 4. Nous lirons un seul verset. Le contexte de ce verset nous montre que les disciples traversent la mer avec Jésus dans la barque, suite à ce que le Seigneur leur a dit de passer de l'autre bord. Et ils rencontrent une tempête. Et là, pendant que la tempête se passe, verset 38, et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ? » Amen. Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ? Voilà donc une question, plus qu'une question, c'est une reproche. Et Seigneur, tu dors alors qu'on est en train de périr. Tu t'inquiètes pas pour nous? Est-ce que tu pourrais pas te lever, faire quelque chose? Est-ce que tu n'es pas conscient? Est-ce que tu ne vois pas les situations dans lesquelles nous sommes, dans ce que nous sommes en train de vivre? Nous allons mourir. Et c'est vrai que quand on est à l'extrême, eh bien, on a parfois des réactions qui font que. Mais il est aussi vrai que nous vivons dans le siècle des inquiétudes. Lorsque dans nos rues ou au travers des médias, on réalise que non seulement en France, mais partout dans le monde, il y a une instabilité qui règne partout. Que ce soit politique, social, économique, le monde est sens dessus, dessous. Et on a l'impression, malgré les discours qui peuvent être faits, qu'en réalité, ça fait déjà quelque temps que la situation a échappé à nos responsables politiques. Il y a aussi un autre sujet d'inquiétude, la montée des eaux. Vous, enfin, ici en France, peut-être qu'on ne s'aperçoit pas vraiment, mais nous qui habitons les îles, c'est un quotidien, la montée des eaux. La montée des eaux fait que la terre est grignotée jour après jour, et quand il y a les forts vents, etc., il y a des pans de terre qui partent, et la mer gagne sur la terre, et des endroits où auparavant on était en sécurité, eh bien, il faut déplacer la maison. Il y a aussi le sujet des inquiétudes, c'est les populations des émigrés, des réfugiés. Voilà. Ils partent de chez eux, et il y a des histoires dramatiques, des situations dramatiques qui se passent également, mais là où ils arrivent, il y a aussi, ils transportent avec eux un lot d'inquiétudes qui nous touche nous-mêmes également. Et puis, quand on regarde en France, même la classe moyenne, elle est touchée par la montée de la précarité. Alors, quand on vit du RSA, la précarité est encore plus grande et la cherté de vie ne cesse d'augmenter. Il y a aussi un autre sujet d'inquiétude, la haine raciale. Aujourd'hui, c'est la montée de l'extrémisme. Et tout ça, ça nous inquiète. Et ce n'est pas ailleurs, ça se passe dans nos rues. Et on peut se dire que ça peut me toucher demain ou tout à l'heure. Les guerres, les attentats, ça se passe ailleurs, mais il y a des conséquences dans nos villes, dans nos rues. Vous êtes particulièrement au courant de tout ça. Il n'y a pas qu'au Moyen-Orient. Il y a des conséquences en France, les attentats, etc. Les grandes catastrophes, on dirait qu'aujourd'hui, c'est des catastrophes partout dans le monde. Donc tout cela amène dans nos vies, chaque jour, un peu plus et encore, avec une montée en puissance, eh bien, d'un climat d'insécurité, d'instabilité, qui influe fortement sur notre vie et notre comportement. Voyez ? Quelqu'un qui est dans l'inquiétude transmet son inquiétude. Vous êtes d'accord avec moi ? Oui, c'est contagieux. Quelqu'un qui est stressé, il va transmettre son stress. Vous voyez ? Et on a difficulté à raisonner. Seigneur, est-ce que tu ne t'inquiètes pas de ce que nous vivons? Nous sommes en train de périr et la mort même vient dans notre pays. On pourrait se dire, où es-tu dans ce que nous sommes en train de vivre? Ce sont des questions, mais où est Dieu? Une fois, dans les rues de Hoche, on distribuait des prospectus d'invitation pour l'évangélisation et une dame nous a apostrophé, mais où est Dieu dans ce que moi je vis, moi? Hein? Je vais vous dire ce que moi je vis. Un, deux, trois. Alors qu'en apparence, l'apparence, elle n'est pas plus que d'autres, moins que d'autres, mais quand elle nous a partagé tout ce qu'elle vit, je me suis dit, oh là là, combien de personnes nous croisons dans les rues et on a l'impression à premier abord que tout va bien, alors qu'ils sont en train de transporter avec eux des catastrophes, des souffrances, des meurtrissures. Et où est la vérité dans toutes les religions ici, là? C'est ce qu'ils nous disent. Vous dites, non, désolé, mais votre message, ce n'est pas pour moi. Mais si les gens pouvaient savoir, pouvaient comprendre, pouvaient recevoir que la folie de la prédication, c'est la solution de Dieu pour les hommes. C'est là que se trouve le salut. C'est pour cela qu'on prêche l'évangile. Ce n'est pas pour faire des adeptes, des adhérents. Non, le monde a besoin de savoir que Dieu l'aime et qu'il a pourvu à son salut. Je ne sais pas quelle est la situation que tu vis, que vous vivez, que vous traversez. Je ne sais pas. Mais je sais une chose, c'est que Dieu le sait. Et qu'il a déjà pourvu. Dans cette barque, lorsque la tempête a soufflé, dans cette barque, il y a des hommes qui ont l'expérience de la mer. Cette mer de Galilée, ils la connaissent en long, en large, en profondeur, etc. S'ils pouvaient faire un dessin, ils le dessineraient par cœur avec tous les recoins. Mais là, quand la tempête a soufflé, eh bien, ils ont certainement mis en œuvre leur savoir-faire pour échapper à la tempête. Pour que la barque ne coule pas, pour qu'elle reste à flot. Ils ont mis en avant leur expérience par rapport à ce qu'ils savent, par rapport à ce qu'ils ont vécu. Ils ont certainement écopé la barque. Allez, on rejette l'eau qui entre. Mais malgré qu'ils écopent, on a l'impression qu'il y a toujours plus d'eau qui entre que ce qui sort. J'ai vu l'autre jour, je regarde un reportage sur les cataclysmes, les tsunamis, etc. Et le pays par excellence où ça se passe tout ça se trouve du côté de l'Orient. Hein. Voilà. Je ne citerai pas pour ne pas faire de publicité. Hein. Mais il nous est dit que ce peuple, il a tellement l'habitude des tsunamis. Des tremblements de terre, et il en a l'habitude qu'ils ont des réflexes qui correspondent à la situation qu'ils vivent. Mais on a également souligné que, avec le temps, la force des secousses et la puissance des tsunamis sont de plus en plus grandes. Ils ont érigé des digues plus haut que le niveau de la ville, si on allait dire comme ça, pour que si la vague venait, eh bien, la ville soit à l'abri. Et au dernier tsunami, la vague est passée par-dessus la digue et quelques milliers de personnes sont mortes. Alors, ils sont en train de construire des digues plus hautes encore. Ils ont fait des calculs et ils construisent, dans certains endroits, ils construisent des digues encore plus hautes, jusqu'à 15 mètres de hauteur. Mais ce que je voulais dire, c'est que avant le dernier tsunami qui est passé, eh bien, quand l'alarme a sonné pour avertir les gens de l'arrivée du tsunami, beaucoup ont eu confiance dans la digue et ils ne se sont pas déplacés vers les hauteurs et ils ont été piégés. Et la digue qui normalement devait les protéger est devenue un piège parce qu'une fois que l'eau est passée par-dessus, il ne peut plus sortir. Donc, ça a mis du temps. Néanmoins, là, ils font des digues encore plus hautes. Dans un autre endroit, comme la ville elle a été complètement rasée, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont remblayé la ville. Alors tenez-vous bien, pour une hauteur de 8 mètres. Alors je pense que 8 mètres, c'est presque deux fois le plafond, là, si ce n'est pas un peu plus. Hein. Ou presque trois fois même, la hauteur de la salle. Remblayez la ville pour après construire dessus. Et celui qui faisait le reportage, il disait que les calculs montrent que la vague passerait certainement les hauteurs plus que les 15 mètres. Alors, celui qui répondait, il disait, mais c'est pour permettre aux gens, même si c'est 2 minutes ou 3 minutes, mais cela permet de pouvoir s'échapper. Et puis, ce qui m'a interpellé, c'est qu'autre part, dans ce même pays, il y a là un ostréiculteur. Alors lui, dans la zone où il se trouve, ils n'ont pas construit de digue. Pourtant, le tsunami y est passé. Et lui, il a noté qu'après après le passage du tsunami, la nature, eh bien, se remettait en vie avec, pour penser, si je peux dire comme ça, ses blessures, beaucoup plus vite que ça ne l'était auparavant. Il y avait une foule de vie qui était là. Et qui fait que pour ces huîtres, au lieu de les élever et être mangeables au bout de 2 ans, c'est en 1 an que ça se passe. Ils gagnent 1 an. Alors, mais ce n'est pas tellement de ça que je veux dire, c'est que dans cette histoire, ce monsieur a dit, il faut se mettre à l'abri. Construire en hauteur. Là où les vagues ne peuvent aller. C'est ça la solution. Alors, à cette question, lorsqu'ils vont dire, Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Le Seigneur va se lever et il va menacer le vent. Et il va dire à la mer, silence, tais-toi. Et le calme est revenu. Il parle à la nature. Notre Seigneur domine sur la nature, sur le monde, parce que c'est lui qui est le constructeur, le créateur, d'une part. Mais il va se tourner vers les hommes et il va leur poser une question. Quelle est la question qu'il leur pose? Alors, à la mer, il dit, et à la mer et au vent, silence, tais-toi. Et la nature. Mais aux hommes, il va se tourner vers eux, eux qui ont dit, Seigneur, tu t'inquiètes pas de ce que nous sommes en train de périr? Il leur dit, quelqu'un a trouvé? N'avez-vous point de foi? Ou où est votre foi? Ça veut dire, frères et sœurs et amis qui êtes là, que la solution de Dieu dans la situation de ce monde, c'est quoi? C'est la foi. Là où on peut trouver abri, c'est dans la foi. Dieu a donné à l'homme la possibilité de se réfugier, d'être à l'abri, la foi. On pourrait dire c'est un peu... Oui, c'est un refuge, mais on peut dire c'est un peu comment... Facile comme solution à ça. Hein? Pas un peu... De... Oui, néanmoins... Ce que le Seigneur dit, c'est contre les soucis, les fardeaux, les inquiétudes, la solution qu'il vous propose à vous et à moi, c'est la foi. Mais la foi, comment est-ce qu'elle vient dans notre vie? C'est la foi, c'est, on peut toucher, on peut palper, on peut, c'est pas concret ça. C'est spirituel, bien sûr. Mais elle a une conséquence puissante dans notre vie de tous les jours. Et le Seigneur dit, si tu as la foi comme un grain de sénébé, la plus petite semence de la terre, c'est pour dire qu'on n'a pas besoin de dire qu'il faut une grande foi pour vivre les promesses de Dieu. Non? Une petite suffit. Et c'est ce que je vous propose cet après-midi. Saisir par la foi les promesses de Dieu. Croyez-vous que cette barque aurait coulé? Non. Pourquoi? Parce que le Seigneur s'y trouve. La mer et les éléments et tout ce qui nous entoure ne peuvent prévaloir contre celui qui est le Seigneur. Alors quand on a la foi dans celui qui a pouvoir et autorité sur tout, eh bien, le Seigneur nous invite à vivre la même chose. Et ce que je vais vous dire cet après-midi, frères et sœurs, ça peut être peut-être et amis, c'est peut-être très basique, mais justement, c'est ce que le Seigneur nous demande. Et c'est ce que le Seigneur attend. Quand un jour, un homme est venu vers l'homme de Dieu pour être guéri de sa lèpre, l'homme de Dieu lui a dit, et puis encore, il ne lui a pas dit directement, il a dit à son serviteur, va lui dire à ce monsieur, général de l'armée, va lui dire, va te laver 7 fois dans le Jourdain et tu seras pur. Oh là là, quoi? Je suis général, c'est comme ça qu'on me reçoit. Il ne me reçoit pas personnellement, mais il envoie son serviteur. Et puis en plus, il me dit d'aller me laver dans le Jourdain, mais chez moi, il y a des fleuves. Je pourrais pas m'y laver et puis être pur, être libéré. Il ne pourrait pas sortir et puis faire des incantations, etc. Heureusement qu'il y a toujours des gens qui sont là pour raisonner un peu. Voilà. Alors, c'est peut-être la situation dans laquelle vous, voilà, vous êtes. Vous dites... frère, tu ne vis pas ce que je vis. Hein? Oui, c'est vrai. Mais néanmoins, je vous dirai quand même que la solution à votre situation, c'est la foi en Jésus-Christ. C'est la foi dans ses promesses. Je ne sais pas ce qui vous inquiète, ce qui vous cause du souci, des tracas qui empoisonnent votre vie au quotidien. Je ne sais pas ce que c'est. Mais quelle que soit la nature de cela, le Seigneur veut vous en libérer. Alors, finalement, cet homme va écouter les conseils de ses serviteurs et il va aller se laver 7 fois. Ce n'est pas 4 fois. Ce n'est pas 5 fois ou 6 fois. Je ne sais pas au bout de la 6e fois comment c'était. Mais c'est au bout de la 7e fois qu'il a été guéri. C'est cela la foi. Vous voyez? La foi nous l'amène à la vivre d'une manière pratique jusqu'au bout. Et dans ce premier passage que nous avons lu tout à l'heure, le Seigneur nous interpelle sur le fait qu'on s'inquiète. Mais c'est vrai en plus. Hein? Quand le 15 du mois, le frigo il est vide et que le compte il est à moins. Comment? Hein? Et que la facture d'électricité n'est pas payée. Et l'eau non plus. Ah. Oui, frères et sœurs, je comprends parfaitement ça. Mais ce que Dieu dit, voyez? Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et tout cela, tout ce dont vous avez besoin, il va vous donner par-dessus. Ça veut dire quoi, frères et sœurs et amis qui êtes là? Il faut remettre les choses dans le bon ordre. Vous voyez? Le Seigneur sait que tu as besoin de vêtements. Ce n'est pas qu'il se désintéresse de ça. Le Seigneur sait que nous avons besoin de manger. Le Seigneur sait que nous avons besoin d'un abri. Le Seigneur sait que tu as besoin de travail. Et on pourrait faire toute une liste. Mais ce que le Seigneur dit, la solution pour tout ça, cherche Dieu premièrement. Alors, je ne sais pas si vous comprenez, mais j'allais dire ceci. Peut-être l'image, elle n'est pas tout à fait ça, mais en tout cas, c'est ce que j'ai trouvé tout à l'heure quand je retravaillais ma prédication sur les gâteaux. Généralement, il y a une cerise. Voilà. Voyez? Voilà. Dites-moi, est-ce que c'est la cerise qui remplit votre estomac? Non. Voyez? C'est le gâteau. Ça veut dire que le plus important, ce n'est pas la cerise. C'est le gâteau. Et c'est ça que le Seigneur nous propose. Le gâteau, c'est le royaume de Dieu. Si tu cherches ça premièrement, alors le reste sera comme la cerise. En plus. Voyez? Alors, je vais vous raconter un petit témoignage que nous-mêmes, on a vécu. Hein, parce que il y a 20 ans, lorsque nous sommes rentrés de France, mon épouse et moi, arrivés en Nouvelle-Calédonie, pendant 8 mois, on est restés sans travail, sans couverture sociale, etc. La totale. Alors, on a dit, c'est pas possible, Seigneur. Est-ce qu'on a péché? On s'est mis devant Dieu, Seigneur. On commence à confesser nos péchés, mais bah, parce que peut-être, on s'est dit peut-être qu'on a péché, puis qu'on ne sait pas, etc. C'est pas qu'il n'y avait pas de travail. Si, il y en a, mais les portes sont fermées. Et puis, on prie, on cherche, on sert Dieu, mais les portes sont toujours fermées. Mais je peux vous dire une chose, frères et sœurs. C'est que tous les jours, à notre table, il y a ce qu'il faut et même plus. Nos factures d'électricité sont payées. Quand la facture arrive, mon épouse prend la facture et puis dit, Seigneur, voilà la facture, mais moi, je n'ai pas d'argent. Tu vas pourvoir, s'il te plaît. Et dans l'heure qui suit, on a quelqu'un qui arrive pour donner la somme qui correspond à la facture. Alors, ça peut vous paraître incroyable, frères et sœurs, mais c'est l'expérience que nous-mêmes, nous avons vécue. Je ne peux pas parler de l'expérience des autres. Et je crois que Dieu ne fait pas de favoritisme. Voyez? Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que quel que soit ce qui vous préoccupe, ce que Dieu vous demande, c'est de remettre votre vie entre ses mains. Et il va s'occuper. Et il va s'en occuper comme il faut. Remettre les choses en bon ordre, c'est chercher premièrement le royaume de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, le Seigneur nous dira ceci, demandez, oui, et vous recevrez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et on ouvrira. Voyez? Et quand le Seigneur il dit comme ça, demandez, cherchez, frappez, c'est parce qu'il veut ouvrir, c'est parce qu'il veut se laisser trouver, c'est parce qu'il veut vous donner. C'est aussi simple que ça. Voyez? 1 plus 1, ça fait... Voilà. Et quand on a vraiment envie, on continue de frapper. Je me souviens de l'histoire de ce garçon qui va, distribuer des prospectus. Et il lui reste un prospectus. Et il prie, c'est un petit garçon, il prie. Et il dit, il faut que je donne ce prospect. Je ne vais pas rentrer à la maison avec. Et là, il va, il frappe à une porte. Personne qui vient. Et il insiste. Et il insiste. Puis finalement, il y a une personne qui vient ouvrir. Et puis il dit, je ne sais plus si c'est une dame ou un monsieur. Une dame. Jésus vous aime. Voilà. Vous êtes dans le besoin. Dieu vous demande de frapper. Encore et encore. Parce qu'il va pourvoir. Vous n'allez pas frapper pendant un mois sans réponse. Ce n'est pas possible que Dieu vous laisse dans la misère alors qu'il a fait les promesses. Cherchez et vous trouverez. Demandez et l'on vous donnera. Mais cherchez l'essentiel, le vital, le plus important. Avoir faim, avoir soif de Dieu. C'est ça la solution. Mais je comprends, frères et sœurs, que je veux un bout de pain, j'ai faim. Hein? Il y a un proverbe, je ne sais pas si c'est français. Ventre affamé n'a pas d'oreille. Vous connaissez ce proverbe? Oui, voilà. Et pourtant, c'est la solution de Dieu. Ça veut dire qu'on doit remettre Dieu en premier dans notre vie. Et Dieu sait exactement ce dont vous avez besoin. Je ne sais pas, je ne saurais pas vous dire, même si vous me demandez tout à l'heure à la sortie, frère, voilà ma situation, est-ce que vous pouvez me dire comment le Seigneur va m'en sortir? Je ne pourrais pas vous dire. Mais je sais qu'il va le faire. Il ne vous laissera pas. Il va le faire. Et si vous êtes là cet après-midi et que vous écoutez cette parole, vous n'êtes pas ici par hasard. C'est parce que Dieu veut que vous l'entendiez. Et il dira lui-même, « Venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. » Le contraire de l'inquiétude, c'est le repos. Et ça, il n'y a que Dieu qui peut donner. Voyez, pendant que les disciples s'agitent, le Seigneur se repose. Pourquoi? Parce qu'il sait. C'est lui qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Et je prie que cet après-midi, vous puissiez mettre votre foi en lui. C'est lui qui a dit également, faites connaître vos besoins à Dieu par la prière et la supplication avec des cantiques. Et la paix de Dieu, encore la paix de Dieu, qui va au-delà de tout ce que nous pourrions comprendre. Voilà. Mais la paix de Dieu, ce n'est pas la paix du monde. Hein. Voyez? C'est vrai que si vous êtes dans le besoin pour mettre quelque chose dans la marmite tout à l'heure, si on vous donne 10 euros ou 15 euros, ça va solutionner votre situation. Mais c'est temporaire. Alors que Dieu veut s'occuper de votre vie tous les jours. Alors, est-ce que cet après-midi, vous allez poser cette question, Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas de ce que je suis en train de périr? Je voudrais te dire que la réponse de Dieu, c'est si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ça veut dire, tu vas voir plus que ce que tu penses. Parce que notre Dieu, c'est un grand Dieu. Et il veut que nous ayons la vie et la vie en abondance.